Alors, nous sommes ici à Longolmay. Nous sommes avec Yann Bloyer. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous accueillir, tout simplement, dans votre maison. Nous vous rencontrons autour d'un récit qui est le vôtre, d'un parcours aussi de vie. Vous avez été instituteur et directeur d'école en Guyane, dans le village de Tullian. C'est bien ça?
Taluan et celui d'Antekumpata.
Auprès des Wayana, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti en Guyane, en pleine forêt amazonienne?
Alors en fait, c'était un vieux rêve d'adolescent de partir vivre chez les Amérindiens. Pourquoi? Impossible de me rappeler pourquoi, je ne sais pas. Dans ma famille, il n'y a absolument personne qui a vécu en Amérique latine, ni chez les Amérindiens. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement que je n'aimais pas la chaleur. Donc, pour moi, ça serait impossible d'aller vivre là-bas, parce que j'ai eu l'occasion de voyager quand j'étais débutant, instituteur débutant, dans les Côtes d'Armor. Et donc, j'ai voyagé un petit peu. Et puis là, je me suis dit, non, la Guyane, ce n'est pas pour moi. Voilà, les années ont passé. Et puis, 2 ans avant la retraite, il y a une conseillère, l'inspecteur, qui était dans mon bureau, on discute. Et elle termine sa phrase en disant, j'ai travaillé 15 ans en Guyane. Et moi, je rentre. Et c'était un vendredi soir, et les demandes de mutation se terminaient le mardi. Et donc, il me restait 4 jours pour réfléchir. Je me suis dit, je suis à 2 ans de la retraite. Si ça ne me plaît pas, bah, je prends ma retraite, et puis on n'en parle plus. Et j'ai postulé, et je suis parti donc, en Guyane. Et là-bas, j'ai demandé un poste à Taluan, qui est un village situé à soit à 2-3 heures de pirogue de Maripasoula. Et Maripasoula, on l'atteint en avion, avec un petit avion de 17 places, il faut à peu près une heure pour y arriver, ou bien on est à 2 jours de pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, j'ai passé 2 ans dans ce village, et ensuite 4 ans dans un village plus en amont, Antekumpata.
Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Vous parliez à l'instant de votre collègue qui vous en avait parlé, mais qu'est-ce qui, justement, a été le déclic? Le besoin de voir le lointain, qu'est-ce qui... Voilà.
Ce qui m'attire là-bas, c'est la forêt. J'aime beaucoup la forêt. Alors déjà en métropole, alors là-bas, c'est puissance 100. Et puis les Amérindiens qui vivent... alors il y a plusieurs types d'Amérindiens. Il y a ceux qui sont sur le littoral, comme les Kalinas, qui sont intégrés parce qu'ils connaissent les Occidentaux depuis Christophe Colomb. Donc ils sont intégrés. Puis il y a ceux qui vivent dans la forêt et qui sont en phase d'intégration. Voilà, et je suis arrivé à ce moment-là, dans cette phase de transition qui est assez difficile pour eux. Et j'aurais préféré arriver avant, mais je suis arrivé 2 ans avant l'électricité. Et j'ai vu en 2019 l'arrivée de l'électricité, et ça a été terrible.
Est-ce que vous pourriez nous décrire justement la société Wayana? Voilà, quels sont les modes de vie? Où se situe justement, voilà, j'imagine, très différent de ce que vous pouviez connaître en métropole.
Alors, rien à voir avec la Bretagne. Donc, les Wayana, ils sont à peu près 2500 répartis entre le Brésil, la Guyane et le Suriname. Et on pense qu'il y en a à peu près 1500 en Guyane, dans 5 villages qui sont... en amont du Maroni. Donc le Maroni, c'est le fleuve qui fait la frontière entre la Guyane et le Suriname et qui part de Saint-Laurent-du-Maroni, donc de l'Atlantique, et qui remonte jusqu'au Brésil, jusqu'au mont Tumucumac. Et donc il y a 5 villages Wayana, là. Ils vivent dans des petits villages. Alors avant, c'était des petits villages qui faisaient entre 60 et 80 personnes. Et puis depuis les années 80, ils se sédentarisent. C'était des semi-nomades. Ils déménageaient tous les 5 ans. Maintenant, ils sont fixes parce que l'école est fixe et que le dispensaire aussi est en dur. Et donc, comme les deux bâtiments ne bougent pas, ils sont devenus sédentaires. Donc, les villages grossissent. Le plus gros, il a à peu près 300 habitants. Alors, pour nous, c'est rien du tout, mais pour eux, c'est énorme. Et ça pose un problème, par exemple, pour les chefs coutumiers qui ne sont pas habitués à gérer des grosses populations. Eux, ils gèrent normalement une famille, la leur. Et maintenant, ils sont obligés de gérer plusieurs familles. Et donc, c'est différent. Il y a des conflits qui apparaissent. Avant, ça n'existait pas, ça. Voilà. Et donc, le village, il est autour du Tukushipan. Le Tukushipan, c'est un bâtiment circulaire, une espèce de gros dôme, et qui sert de salle polyvalente, salle des fêtes, qui sert aussi d'hébergement. C'est-à-dire que quand vous voyagez sur le Maroni, la nuit, on ne peut pas voyager parce que, bon, d'abord, c'est interdit. Il y a un couvre-feu, mais parce que c'est dangereux, il y a les sous à passer. Donc chaque village, que ce soit les Amérindiens ou les Bushinengués qui sont les descendants des esclaves, chaque village peut accueillir les passagers. Donc du moment où vous avez vos trois hamacs, il y a toujours un bâtiment pour s'installer. Donc chez les Wayana, c'est le Tukushipan. Et puis autour, eh bien, vous avez l'école qui peut avoir entre deux classes. La plus petite, elle a deux classes et la plus grande, elle a cinq classes. Et puis vous avez deux dispensaires sur les cinq villages avec un seul médecin. Et puis après, il y a le village de Taluen qui est le plus gros, là, 300 habitants. Il y a aussi une annexe de la poste et une annexe de la mairie. Alors l'annexe de la poste, bon, il ne faut pas rêver. Elle est ouverte quand il y a l'électricité. Donc pas tous les jours, quand il y a Internet, c'est-à-dire pas tous les jours. Et puis quand la postière n'est pas en stage, donc des fois elle peut être fermée pendant plusieurs jours, voire plus.
Est-ce que vous pourriez nous décrire les lieux ? Vous parliez de la forêt amazonienne, j'imagine que ce village donc est en pleine forêt amazonienne. Comment sont disposés justement, comment se présente le village ? Alors, l'ambiance ?
Il est en pleine forêt, mais au bord du fleuve. D'accord. Donc le fleuve est déjà assez large. Et puis donc il y a une espèce d'énorme clairière dans laquelle ils ont construit le village petit à petit. Le village s'est étendu. Au début, ils n'étaient pas nombreux. Hein. C'était un tout petit village. Taluen, il y avait une seule famille. Et puis petit à petit, ça, c'est devenu plus gros. Et puis autour, il y a la forêt. Alors c'est assez magique parce que ça se passe en quelques mètres. C'est-à-dire que vous marchez, mettons, à Taluen, il fallait marcher 5-10 minutes. À Antekumpata, je marchais 4 minutes et j'étais dans la forêt. Et là, on sent vraiment le passage. Il y a le son, les sons sont complètement différents parce que tous les animaux sont dans la forêt, ne sont pas dans la clairière. Et puis la chaleur. C'est-à-dire que dans la forêt, il fait des deux. Je n'ai jamais emmené le thermomètre, j'aurais dû. Il fait moins chaud. Parce qu'on rentre dans la forêt, mais il fait vraiment moins chaud. Donc c'est plus agréable de marcher en forêt que de marcher dans le village, par exemple.
Les Wayana, vous le disiez, vivaient dans la forêt, de manière nomade.
Semi-nomade.
Le fait qu'ils se soient sédentarisés, c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté, c'est quelque chose qui n'était pas un mode de vie traditionnel pour eux.
Alors, en fait, au début, ils vivaient au Brésil, tous les Wayana. Et puis, ils ont fui quand les Portugais sont arrivés, d'accord, parce qu'ils voulaient les réduire en esclavage. Donc, ils ont fui et ils sont arrivés le long d'une chaîne de montagnes qui s'appelle les Tumucuma, qui sert de frontière entre le Brésil et la Guyane. Sans le savoir, il n'y avait pas de poste frontière. Et de là, ils ont descendu le Maroni. Et ils étaient donc semi-nomades. Alors, pourquoi semi-nomades ? Parce que la terre de Guyane, qui est très riche en or, ne l'est pas du tout en nutriments pour les végétaux, parce qu'il n'y a pas d'hiver. Donc, la terre est toujours sollicitée par les végétaux. Donc, elle s'épuise. Et donc, pour leur culture, ils abattent des arbres, ils les brûlent pour avoir un peu d'engrais. Et puis, ils cultivent cette parcelle qu'ils appellent un abatis pendant un an, deux ans. Et après, ils en font un deuxième à côté. Un an, deux ans, ils en font encore un autre. Et puis ensuite, a été coupé autour du village. Donc, ils déménagent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés à Taluen, ils étaient d'abord dans un village à côté, qui était sur une île et qui est devenue trop petite. Donc, il y a une partie qui est montée à Taluen, une partie qui est montée à Antekumpata, où j'ai travaillé aussi. Et puis là, les villages ont commencé à grandir. L'État a construit les premières écoles. Pas la première école. La première école était une école privée, qui a été construite par un Amérindien. Je pourrais y revenir. Donc l'État a construit une école, deux écoles, trois écoles, mais des écoles en dur. Qui dit école, il y a un gros problème qui va avec l'école, c'est il faut trouver des enseignants qui viennent de métropole. D'accord. Et qui sont habitués à un certain confort et qui ne dorment pas dans un hamac en pleine forêt. Donc il a fallu leur construire des maisons qui étaient en dur aussi. Donc les bâtiments en dur ont commencé à arriver. Ensuite, il y a eu le premier dispensaire. Alors le premier dispensaire, c'est assez tardif, c'est à l'époque de Nicolas Sarkozy quand il était président. Donc c'est pour avoir un repère, c'est le premier dispensaire. La première école, c'est dans les années 80. En parallèle de ça, c'est-à-dire que du coup, ils sont devenus sédentaires, en parallèle est arrivé le RMI et le RSA, parce qu'ils sont devenus citoyens français. Parce qu'au début, dans les années 50, par exemple, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni parlait de peuple primitif. D'accord. Donc on ne parlait pas de français. Et puis tout d'un coup, l'État s'est rendu compte qu'il avait des habitants en France qui n'avaient pas de statut. Et il a fallu donc leur donner la nationalité française, leur donner des papiers. Donc ça a été assez compliqué parce qu'ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas de date de naissance non plus. Et à partir de ce moment-là, ils devenaient citoyens français, donc ils avaient les mêmes droits que les Français. Quand le RMI est arrivé, ils avaient le droit au RMI. Donc là, il y a des associations qui ont dit « c'est une bêtise de leur donner le RMI, ils ne savent pas ce que c'est que l'argent, ils n'ont jamais eu d'argent, ils ont toujours fait du troc, on va faire une bêtise ». Mais vous savez que sur le fronton de la mairie, il y a écrit « égalité », donc on leur a donné le RMI. À partir de ce moment-là, ils ont pu s'acheter des moteurs pour leur pirogue. Avant, ils n'avaient pas de moteur, tout se faisait à la pagaie. Ils ont acheté des moteurs, ils ont pu acheter de l'essence. Et du coup, ils n'avaient plus besoin de déménager, puisqu'avec la pirogue, ils pouvaient aller plus loin pour les abattis. Donc la pirogue a remplacé la semi-sédentarisation. D'accord. Voilà.
En tant que professeur des écoles, on est dans un contexte tout autre que celui que vous connaissiez ici, en métropole. Comment cela se passe d'enseigner les matières qui sont celles de l'éducation nationale dans un contexte avec au contact d'une culture qui ouais. est très différente pour le coup.
Alors moi, avant de partir, j'ai lu beaucoup, je me suis documenté, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de matériel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout préparé. J'ai préparé un an de classe. En métropole, avant de partir, j'ai fait toutes les photocopies. Je suis venu avec les livres. Je ne suis pas venu avec les cahiers. J'avais 600 kilos de bagages. Je suis arrivé là-bas avec toutes mes affaires. Et très, très vite, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais préparé, ça ne servait à rien, mais vraiment à rien. Alors, le programme, c'est le programme officiel de la France. Donc, c'est exactement le même, sauf qu'il est absolument inapplicable là-bas. Il y a un très gros problème de vocabulaire parce que les élèves, ils apprennent le français à l'école et ils parlent le français qu'avec leur enseignant. Dès qu'ils sortent de la classe, ils ne parlent plus français. En récréation, ils ne parlent pas français.
Quelle est la langue, Wayana?
C'est la langue Wayana. D'accord. Ouais. Et ouais, Tomamka, Bokaman. Et donc, à la différence d'un élève étranger qui arrive en métropole, lui, il va être obligé de parler français avec ses camarades dans la récréation. Ou dans la rue, ils vont entendre parler français. Eux, ils ne parlent français qu'à l'école. Donc, ils ont un retard en vocabulaire qui est assez important. Et je me rappelle du premier problème que j'ai donné. Donc, j'ai pris les livres de la classe. C'était un livre de calcul de métropole. Et il fallait calculer la longueur d'un pont, un pont normand. Sauf que sur le Maroni, il n'y a pas un seul pont. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un pont, donc il a fallu que j'explique. Après, c'était une leçon sur les mesures, il fallait calculer la longueur d'un ski. Bon, ben voilà, c'est pareil, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un ski. Et donc, en fait, chaque matière requiert une bonne partie en vocabulaire. On parle, on explique, voilà. Mais ce qui a été extraordinaire avec eux, c'est que l'école, elle est ouverte de 7h30 à 13h. L'après-midi, il n'y a pas classe. Donc, on travaille le mercredi pour rattraper. Alors, il n'y a pas classe parce qu'il fait trop chaud. Donc, l'après-midi, tout le monde est dans son hamac. Moi, le premier, je ne faisais rien de l'après-midi. Et puis, ensuite, dès que la température commençait à baisser, les élèves venaient me chercher et on partait en forêt. Et là, je devenais élève. Et c'était eux les professeurs. Et ils m'ont tout montré. Mais c'était marrant, comme ils me montraient les plantes, les animaux, et moi, je ne voyais rien. Ils me disaient, là, regarde, il y a un iguane. Alors, l'iguane, il est vert, dans une forêt verte. Je ne voyais absolument rien. Des fois, il était à un mètre de moi, je ne le voyais pas. Et donc, ils m'ont appris ça. Pareil pour le kayak. Bon, moi, j'avais fait du kayak à Saint-Brieuc. Ça n'a rien à voir avec le Mahoni. Hein. Y a les sauts à passer, c'est-à-dire les espèces de petits torrents, de rapides plutôt. Alors, pour vous ayez une image, une fois, j'avais descendu un rapide tout seul, et puis j'étais revenu, j'avais mis 1h30 pour remonter, en tirant le kayak. Le lendemain, j'y suis retourné avec les élèves, on a mis 40 minutes à revenir. Voilà. Et en fait, ils me montraient tout. Donc, il y a eu un réel échange. Voilà, et ça, c'était très riche.
Comment s'établit justement le rapport entre un enseignant qui vient de métropole et des Wayana?
Ouais, les Wayana n'ont pas la même relation que les autres Amérindiens avec les Blancs, hein, je veux dire les Blancs en général, parce qu'ils les ont connus tardivement. Ce n'est pas comme l'histoire des Aztèques, des Mayas ou des Incas qui ont été massacrés par les Européens, parce qu'eux, ils étaient dans la forêt. Et les Français, quand ils ont occupé la Guyane, ils ne s'occupaient pas du tout des Wayana, ils ne les connaissaient pas, ils étaient au fin fond de la forêt. Et en fait, les Wayana ont descendu le Mahoni tout doucement. Et pendant ce temps-là, il y avait les descendants des esclaves du Suriname qui avaient fui le Suriname pour venir en France, qui remontaient le fleuve, et ils se sont croisés à Maribasoula. Donc là, ils ont fait ce que tout homme fait lors d'une rencontre. Ils se sont d'abord battus, et puis ensuite, ils ont discuté. Et là, les Wayana ont découvert qu'il existait des hommes noirs. Ils ne savaient pas. Et puis les hommes noirs leur ont expliqué qu'il y avait aussi des hommes blancs qui existaient, et qui étaient sur le littoral. Et il y a eu des trocs avec les bonis, les descendants d'esclaves, qui leur ont apporté des haches en métal qu'ils avaient achetées aux blancs. Et les Wayana ne connaissaient pas le métal, ils avaient des outils en pierre encore et en bois. Et donc, pour eux, les Blancs sont rentrés dans le... Je dis les Blancs parce que dans leur mythologie, ils parlent de Blancs, ils ne parlent pas d'Européens. Ils sont rentrés dans leur mythologie et ils disent que Kuyuli, qui est le dieu des Wayana, a donné par exemple le métal aux Blancs. D'accord. Voilà. Mais je ne me rappelle plus de la question.
Justement, vous, en tant qu'instituteur européen, qui arrivez dans un endroit, c'est un rapport particulier pour le coup.
Alors effectivement, parce que donc je suis resté 6 ans, et la dernière semaine avant de partir, il y a le petit-fils du grand man. Le grand man, c'est le chef de tous les Wayana. Dans chaque village, il y a un chef coutumier. Et puis au-dessus, il y a le grand man. Et donc, je discutais avec son petit-fils qui a dans les 25 ans. Et il me dit, mais Yann, quand t'es arrivé, tout le monde avait peur de toi. T'es blanc, t'es grand, parce que les Wayana sont plus petits. Donc moi, j'étais le plus grand du village. Il n'y avait pas plus grand. J'avais les cheveux gris. Et j'étais directeur. Donc ça faisait que des raisons d'avoir peur de moi. Et en fait, ce qui a facilité mon intégration, c'est le fait d'être enseignant, parce que je travaillais avec les enfants, que les enfants m'ont adopté. Et donc, c'est eux qui ont transmis la bonne nouvelle dans le village en disant que j'étais quand même sympa, quoi. Voilà.
Très bien. J'imagine, donc, vous arrivez pour enseigner les matières. Ouais. Avec vos pédagogies, vous le disiez très rapidement, devant le réel, enseigner la taille d'un ski, encore faut-il connaître un ski, le pont. Comment s'est fait justement cet enseignement? Comment s'est fait cet enseignement, où évidemment, qui a dû supposer un certain nombre d'adaptations réciproques, j'imagine aussi.
Ah oui, alors évidemment, ça a été une adaptation importante. J'avais de la chance, c'est que j'étais en fin de carrière. Donc j'avais l'expérience suffisante pour pouvoir m'adapter rapidement. Et alors m'adapter au groupe classe et puis m'adapter à chaque élève. Par exemple, il y en a un, il ne m'a pas parlé pendant un an. C'est seulement la deuxième année qu'il a commencé à me parler. Bon, et il y avait ça aussi. Il a fallu simplement que je me mette à leur niveau. Ce n'était pas eux qui devaient se mettre au niveau des programmes, mais bien l'enseignant qui devait adapter le programme pour ses élèves. Voilà. Et puis, donc là, j'arrêtais pas d'innover, puisque j'étais venu avec mes affaires, mais qui servaient à rien. Et puis, voilà, j'ai tout refait, ma pédagogie. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Mais je dirais que la première année, j'ai quand même pas mal cafouillé. Hein. J'ai pataugé quand même. Hein. C'est à partir de la deuxième année que ça allait beaucoup mieux. Parce que je voyais où j'allais, puis je savais ce qu'ils attendaient de moi, et tout en respectant les demandes de l'institution.
Petit à petit, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez l'enseignant, mais finalement c'est vous qui êtes devenu l'élève.
Ouais.
Est-ce que tout simplement vous pourriez nous expliquer justement, dans la mesure du possible, mais j'imagine que c'est vous qui devenez l'apprenant.
Alors, moi là-bas, en fait, j'avais de l'expérience en tant qu'enseignant, mais en tant que personne arrivant dans la forêt amazonienne, je savais rien parce que j'avais vécu dans la forêt. J'avais une maison dans la forêt de Retz, donc j'allais souvent en forêt, mais ça n'a absolument rien à voir, quoi. Dans tous les guides touristiques, ils disent ne jamais s'éloigner du chemin. Même pas un mètre. Et ben ça, je l'ai testé. Effectivement, on est à un mètre du chemin, on ne le retrouve pas. Il y a tellement de végétation. Et j'ai eu la chance d'avoir un appareil photo numérique. Et j'avais fait des photos, donc j'ai remis l'appareil. Et j'ai fait le chemin à l'envers pour retrouver le chemin. Donc, il y a eu deux choses. Les élèves m'ont fait découvrir les environs, la forêt. Et puis, il y en a un qui était souvent chez moi. Tous les après-midi, il était chez moi parce qu'il habitait un petit peu loin de l'école. Et donc, quand il venait pour jouer avec ses camarades, jouer au foot, s'ils n'étaient pas arrivés, ils venaient chez moi parce que j'habitais dans l'école. Et puis, il prenait les livres et puis il les lisait, alors qu'à l'école, il ne savait pas lire. Mais par contre, il lisait les livres chez moi. Et puis, un jour, il me dit, moi, je pourrais t'emmener à la Grande Cascade, mais je ne sais pas y aller. Il faut que je demande à mon père. Alors, je lui dis, demande à ton père. Donc, un dimanche matin, il devait être 7h du matin ou 6h30, il vient me chercher. Et on est parti avec son père à la Grande Cascade. Donc, pour montrer la réserve des Wayana, son père, qui était un adulte, il ne m'a pas dit un mot de la journée. Il m'a dit bonjour. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de parler, mais il fuyait tout de suite devant. Et puis, voilà. Et puis, je suis allé trois fois à la Grande Cascade avec son père, que je prenais comme guide. Et puis là-dessus, j'ai eu l'idée de monter une expédition complètement en amont aux sources du Maroni, Tumukumak. Et j'ai donc demandé au père de mon élève, Dracon, de nous emmener. Et donc, je suis parti avec mon frère, avec deux guides Wayana et le fameux élève Dracon. Et on est parti une semaine en forêt. Il y avait 2 jours de pirogue aller, 2 jours retour. Donc, pirogue dans la forêt, il n'y a rien, hein. Et puis après, il y avait une bonne journée de marche pour arriver où on devait aller. Et puis on est resté quelques jours là-haut. Et là, ça a été une révélation parce que les Wayana, pour vraiment les connaître, il faut aller en forêt. C'est vraiment les hommes de la forêt. Et nous, là, on est rien du tout, quoi. Et les Tassik et Touvoli, qui étaient donc les deux Wayana qui nous accompagnaient, ils ont compris que mon frère et moi étaient complètement en admiration devant eux, quoi. Parce qu'on était complètement dépendants, incapables de se débrouiller tout seul. Alors, moi, j'étais responsable de la nourriture pendant le trajet en pirogue. Donc, j'avais préparé des crêpes, de la mousse au chocolat. C'était, je pense, la seule expédition au monde qui avait de la mousse au chocolat. Parce qu'on avait des glacières dans la pirogue. Mais une fois en forêt, c'était eux qui chassaient. Et on mangeait ce qu'ils chassaient. Et puis, ils ont besoin de rien. On n'avait pas apporté de tente. Ils construisent le camp avec une machette. Ils ont besoin que d'une machette, c'est tout. Et d'accord. Puis là, ils coupent 13 troncs d'arbres, pas des branches, des troncs d'arbres, de trois tailles différentes, 100 mètres. C'est coupé pile à la bonne dimension. Et ils construisent un abri. Et là, on met les hamacs et les moustiquaires. Et puis le lendemain, on repart.
Donc c'est pour le coup, un mode de vie, cette découverte de la forêt en compagnie des Wayana, qu'est-ce que vous avez vu et découvert que vous ne voyiez pas quand vous arriviez et à travers justement ce qu'ils vous ont montré?
Alors déjà, quand on arrive dans la forêt, on est complètement écrasé. Alors, par la végétation, parce que les arbres, ils font 30 mètres, 50 mètres de hauteur. La forêt est très, très dense. Il y a pas d'équivalent en métropole. Il fait chaud. Alors, il fait moins chaud que dehors, mais il fait chaud étouffant avec l'humidité. Ensuite, il y a des arbustes, il y a des buissons, il y a des fougères, il y a tout ça. Et il y a des animaux absolument partout qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Et on entend mais des animaux partout, 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 et tout le temps. Le mot silence n'existe pas en Wayana, parce qu'il n'y a jamais le silence. D'accord. Même en pleine nuit, il y a des animaux qui parlent. Et alors ça, c'est pas oppressant, c'est magique, quoi. Parce que quand on commence à écouter, au début, moi, j'entendais un magma. J'entendais rien, quoi. Quand on prend le temps dans le hamac d'écouter, ben, on se rend compte que c'est absolument magique. Parce que c'est pas du tout un magma. Il y a tel animal qui chante, après c'est un autre, et puis l'autre il revient. Et tout ça, c'est en rythme. Et puis, par exemple, les Wayana, le matin, entre 6h et 8h, je crois, ils sont capables de vous dire l'heure au quart d'heure près, sans montre, à l'oreille, avec les animaux.
Alors après, aux animaux ?
Oui. Oui, c'est ça, parce que les animaux, eux, ils connaissent l'heure. Donc la grenouille, elle chante à telle heure, le cri-cri, il chante à telle heure, l'oiseau, machin, il chante... Ben, par exemple, à côté de ma maison, il y avait un arbre, un palmier, dans lequel il y avait des cassiques jaunes. Les cassiques jaunes, donc c'est des super beaux oiseaux noirs avec le ventre jaune fluo. Et ils chantent à 6h moins 5 le matin, à fond. Et puis à 18h30 le soir. Donc on sait à quelle heure il faut se coucher, à quelle heure il faut se lever. Donc il y a ça, la forêt, il y a tout ça. Et eux, dans cette forêt où nous, on ne voit que du vert, eux, ils voient plein de choses. Donc ils voient et ils entendent. Par exemple, tout d'un coup, il y a Touhouli qui dit « j'arrive ». Il part en courant avec son fusil, on entend « poum ». Il revient avec un singe. Bon, il savait qu'il y avait un singe là-bas. Donc, soit c'est à l'oreille, soit c'est à l'odeur aussi, parce qu'il y a les odeurs, on est assailli d'odeurs. Et donc, eux, ils voient tout, et nous, on ne voit absolument rien. Et puis, dans la forêt, ils savent se servir de tout. Il y a des lianes, par exemple, pour boire. On coupe la liane, on boit. Il y a plein de fruits à manger. Bah, si nous, on ne le sait pas, on ne les mange pas. Il y a des espèces de petites noisettes, par exemple. Si elles sont mûres, c'est comme une noisette. Si elles ne sont pas mûres, si elles sont vertes, ben c'est à l'intérieur, il y a de l'eau. D'accord. Donc, eux, ils savent se débrouiller sans rien. Nous, en quelques jours, je crois qu'on commence à perdre pas mal de...